Diversité,
politique,
quartier,
culture,
LBB Radio.
19h du matin, l'émission du Lyon Bondy Blog revient cette semaine avec dans ses poches les rencontres qui nous ont marqués récemment. Alors dans un premier temps, on va revenir au festival Le Printemps des Comédiens qui a eu lieu la semaine dernière, le 8 et 9 avril, et on a pu y rencontrer le directeur de la MJC, Vaux-en-Velin. On présentera aussi Benoît et Benjamin, metteurs en scène et co-auteurs d'un spectacle qui a fait sensation pendant le festival, et se peut dire car c'est un spectacle qui est entièrement monté, réalisé et joué par des comédiens amateurs. Et pour finir, on ira rencontrer Sami Kadir, écrivain lyonnais qui a sorti tout récemment son nouveau livre Le Chant des Narcos chez l'éditeur Harmattan. Alors c'est la suite de Sursis sans frontières, son premier ouvrage, et ça nous raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Belkacem et qui va, malgré lui, devoir partir de son quartier les Minguettes. On y va.
Éric Pommet, vous êtes le président, le directeur de la MJC Vaux-en-Velin. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qu'est-ce que c'est une MJC et que propose la MJC Vaux-en-Velin ?
Je veux peut-être parler plus spécifiquement de la MJC de Vaux-en-Velin. Donc la MJC de Vaux-en-Velin a été fondée en 1961. Elle est longtemps restée dans le village de Vaux-en-Velin, rue Lamartine. Et depuis 22 ans maintenant, elle est installée dans ces nouveaux locaux qui ont été construits par la mairie de Vaux-en-Velin. Donc un équipement qui fait 1600 mètres carrés. Avec une spécificité peut-être, des activités. Donc il y a un secteur d'activité qui se décompose en trois secteurs. C'est un secteur enfant, un secteur sport et un secteur culturel. Donc avec une spécificité, c'est que le secteur culturel est très 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 développé. Et puis là, c'est une histoire un peu particulière avec le Festival des Comédiens, puisque c'est le collectif Yggdrasil. Donc le collectif Yggdrasil, c'est différentes compagnies qui se sont regroupées au sein d'un collectif. Et il se trouve que les deux compagnies qui sont à l'origine de ce collectif sont des compagnies qui, il y a quelques années, étaient...
Elles se sont rencontrées ici.
Alors, elles se sont plus ou moins rencontrées ici. Hein. Elles se connaissaient, elles se croisaient, etc. Mais bon, à un moment donné, elles se sont dit « Ah ben tiens, tu répètes à la MJC, ben nous aussi ». Et puis, donc, je crois que c'est en 2013 ou en 2012, non, 2013, ces deux compagnies étaient présentes à Avignon. Et elles se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas un petit peu ensemble? Pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble? C'est vrai qu'on s'est croisés à plusieurs reprises. Ils ont créé ce collectif. Et donc, il y a d'autres compagnies qui les ont rejoints. Maintenant, ils sont une trentaine de personnes dans ce collectif. Et comme certains viennent continuer à répéter ici, l'échange, c'est-à-dire la rétribution qu'ils nous donnent, c'est ce festival. Et puis, ils ont un projet, le collectif a un projet qui me semble être un projet très, très intéressant, mais ils viendront peut-être en parler. C'est un nouveau spectacle qui est programmé pour Avignon 2017, qui s'appelle La guerre des 9 ans. C'est à partir du meilleur des mondes, du bouquin Le meilleur des mondes. Et c'est d'autant plus innovant que c'est un spectacle où les comédiens vont jouer avec leur double holographique. C'est-à-dire que c'est un spectacle de théâtre et d'hologramme. Et j'ai dit, tiens, ça, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose de moderne. Bon, on va essayer de s'impliquer là-dedans. Et pour la création de ce spectacle, ils ont participé à un concours qui était parrainé par Jamel Debbouze et qui était organisé par Carrefour. Et l'année dernière, ils ont gagné. Ils ont gagné. Bon, le principe, c'est qu'on doit, voter pour le meilleur projet. Et leur projet a gagné. Et donc, là, maintenant, donc, ils se préparent pour la création de ce spectacle qu'on aimerait bien pouvoir faire à Vaux-en-Velin. Le problème, c'est que le seul endroit où on pourrait le faire, c'est le centre culturel Charlie Chaplin. Ce n'est pas évident, qu'on a du mal à rencontrer les responsables culturels quand même. Même si on est maison des jeunes et de la culture, on a quand même la difficulté à rencontrer les responsables culturels sur ce projet. On voudrait bien leur présenter. J'espère qu'ils seront là cet après-midi, parce qu'ils n'étaient pas là ce matin, mais j'espère qu'ils seront là cet après-midi pour qu'on puisse leur présenter un petit peu le projet, pour qu'on puisse faire la création à Vaux-en-Velin. Je pense que ça représenterait quelque chose quand même, parce que c'est vraiment un spectacle, c'est de l'innovation, quoi, quelque part. Moi, je pense que dans une ville comme Vaux-en-Velin, qui, au niveau de la culture scientifique et technique, est assez en pointe avec le planétarium, ébullition et des choses comme ça, je pense que ce sera important que ça apparaisse, que ce spectacle soit créé ici. Et puis, le parrain de ce concours, la personne qui a permis que ce projet se fasse, c'est aussi Jamel Debbouze. Et Jamel Debbouze qui a quand même un certain écho dans les banlieues, quoi. Donc voilà, moi je pense que ce serait intéressant qu'on le fasse ici. Si on peut pas le faire ici, tant pis. Et puis cette journée-là, donc c'est à la fois bon, la rétribution de l'allocation des salles. Et puis on s'est dit aussi, nous MJC, on s'est dit, bah, faire le Festival d'Avignon, c'est cher, il faut des moyens. Donc c'est pour ça qu'on leur a dit, bah, écoutez, tout ce qui va être produit hein, financièrement aujourd'hui, c'est vous qui allez, l'empocher. Nous, on paye les cacahuètes. Et vous mettez en place, donc ils ont mobilisé toute une bande de bénévoles pour présenter ces différents ateliers, ateliers hologrammes, ateliers maquillage, science-fiction, enfin bon, tous ces ateliers. Et puis, on aura tout au long de la journée, on a des spectacles dans la salle de spectacle. Et ça servira à financer Avignon 2017.
Et d'un autre côté, ça permet aux vedettes d'avoir accès à la culture de la création théâtrale et pas besoin de traverser le périphérique, d'aller à Lyon, Lyon Intramuros. On peut, à Vaux-en-Velin, pouvoir voir des spectacles innovants à la MJC.
C'est aussi le gros enjeu de la MJC, c'est de mettre en confrontation les œuvres avec les vedettes, enfin avec les habitants. C'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours aussi simple. C'est vrai qu'il y a des médias culturels qui sont plus accessibles. Enfin, mais bon, nous, on veut essayer de sortir. On ne rejette pas la culture urbaine, le hip-hop, etc. Au contraire, on en fait beaucoup. Hein. Kassem a un festival à l'MJC hip-hopon de culture urbaine. Mais on se dit que ce n'est pas parce qu'on est en banlieue que la seule culture auquel on a accès, c'est la culture urbaine. Je pense qu'il faut qu'on puisse avoir accès à des cultures d'exception. L'innovation aussi. Et moi, je pense que
le théâtre a toute sa place à Vaux-en-Velin.
Bien sûr que le théâtre a toute sa place et le théâtre, j'allais dire même le théâtre très populaire quoi quelque part, parce que aujourd'hui on a des spectacles qui sont plus ou moins accessibles. C'est vrai que bon, il y a des choses qui sont adaptées aujourd'hui. Par exemple, tout à l'heure vous aurez un spectacle, ça s'appelle Interview d'un boxeur. C'est un spectacle qui a été monté spécialement pour la salle de boxe et pour la MJC. En se disant, bon, peut-être que les boxeurs vont venir. Hier, on avait des matchs d'impro qui ont commencé dans la salle de boxe au mieux de l'activité boxe. Hein.
C'est difficile.
C'est difficile, ouais. C'est difficile.
La salle Charlie Chaplin ramène beaucoup de monde et est très populaire. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, pour les MJC ou même d'autres structures
Mais ce que je disais tout à l'heure à l'inauguration du festival, c'est vrai que Charlie Chaplin ramène beaucoup de monde qui passe le périphérique, mais les gens ne vont pas ailleurs, ou très peu, peut-être le planétarium et encore. Bon, la MJC, quand on a des spectacles, si c'est pas des gens vaudais, hormis la famille, les gens ont du mal à amener du public de la ville de Lyon. On travaille également, on va essayer de travailler avec le périscope, par exemple, pour essayer d'emmener, de familiariser les gens pour aller fréquenter des spectacles de l'autre côté du périph', parce que ça aussi, dans le sens inverse, les Vaudais ont énormément de difficultés à aller voir des spectacles à l'extérieur, quoi. Et puis, les Vaudais ont du mal à aller au spectacle en général, hein, parce que je vous dis, mon Charlie Chaplin, il y a un pourcentage assez faible de Vaudais.
C'est pas des Vaudais qui vont au théâtre.
Pas majoritairement, loin s'en faut, quoi. La ville travaille là-dessus, hein, la nouvelle équipe municipale essaye de travailler là-dessus. Alors j'ai pas encore les retours, mais il y a l'ancien directeur de la DRAC, adjoint aux affaires culturelles, enfin pas adjoint aux affaires culturelles, directeur général des services culturels de la région, qui est Abraham Benjo, qui a dû rendre récemment un audit sur la culture à Vaux-en-Velin, où il a interviewé un certain nombre d'acteurs et de médiateurs culturels pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Et ben, les journées comme celle-ci sont l'occasion idéale pour expliquer aux Vaudais que le théâtre, c'est aussi pour eux. Il n'y a pas que des choses très difficile. On peut rire au théâtre, on peut pleurer, on peut s'émerveiller. La compagnie Drasil est, je pense, une très bonne compagnie pour ça, pour expliquer que le théâtre est accessible à tous et qu'on soit vaudais, bien entendu, on a le droit à aller au théâtre et il y a des théâtres à côté, il y a des centres culturels. Et ben, on vous remercie beaucoup, puis on va vous suivre sur la durée, parce que je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire sur la MJC de Vaux-en-Velin.
Si la peur est un mirage, la rage qui l'anima est un miracle. Et tous les jours il accomplit les 12 travaux d'Irak. Les gens sincères, il a compris que c'était rare. Il avance en solitaire si tu lui parles, etc. le souvenir de ses proches et de ce club qui l'enterra, de cette voix qui l'entraînait dans le plus beau des opéras. Radical, le changement s'est opéré. Franchement, je suis tempéré. Pas de ceux qui se tuent au para, les couches, j'essaye de les parer. Et de Lyon à Paris, j'ai vu les frères devenir tarés. Mais ça me fait pas rire que tu sois fier d'en avoir plein de tarins. Mais c'est pas mes affaires et c'est pas non plus mon terrain. De Neuville au terreau, le coup de paria. La haine d'Aria, toujours en âme en guérilla. Je revois ton visage et mes vas-y guérilla. Des années que je dérive là, des valapans, des liens, sacré dénivelé. Délivre-les quand ça va mal. Sauvage l'animal, besoin d'une bouille de sa malle. Prédateur attend des heures, planqué dans la savane. Protège son territoire, sa portée et sa femme. Dans nos vies dérisoires, je crois qu'on a perdu la flamme. T'as pas trouvé la ferme, rassemble tes affaires. Solitaire et le fauve, il a semblé s'effacer. Dans la forme, ça semblait si facile. 733 et 6x6, c'était le trop cette fois-ci. Les bidons en guidon et les manettes moisies. Les maguettes à noisies. 9ème au 69, nous voici. C'est pour Lyon et pour le H, AVRE. J'humain H, vénéreux, un amour vénéneux. Je le déteste tout autant que je l'ai vénéreux. Il peut te rendre parano généreux. Je le déteste tout autant que je l'ai vénéreux. Il peut te rendre parano généreux.
Alors, dans toutes les activités qui sont proposées aujourd'hui, il y a une représentation très particulière, la pièce, qui a été entièrement mise en scène, écrite et jouée par une troupe amateur. Et nous avons l'occasion, l'immense honneur, de rencontrer Benoît et Benjamin, metteurs en scène et co-auteurs de la dite pièce. Alors, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi le nom La Pièce ?
Parce que... Sans trop en dire, en fait, ça raconte un peu la préparation d'une pièce. Donc, en gros, on part de la présentation du metteur en scène à ses comédiens jusqu'au jour de la première. Du coup, bah, au lieu de trouver un titre à rallonge et tout ça, on a eu l'idée de l'écrire la pièce. Et puis, en fait, ça a plu parce que les gens bah, viennent voir la pièce. Quelle pièce ? Bah, la pièce. Et finalement, bah, ça marche assez bien. C'est sans prétention vraiment, parce que ce n'est pas notre genre, mais voilà, c'était.
C'est ça. Pas de. On a hésité longtemps à l'appeler aussi, sinon l'avant-première. On s'est dit parce qu'on montre tout ce qui se passe avant une première, et puis on s'est dit non, c'est la pièce. Voilà.
C'est la pièce. Voilà.
Alors au départ, d'où vient cette idée de pure folie de se dire on va écrire une pièce, on va la mettre en scène et on va demander à des amateurs de la jouer? Comment on arrive à cette idée-là?
Alors déjà, avec Benjamin, ça fait quand même quelques années qu'on était, nous, comédiens amateurs. Donc, à l'école Dynamic Act, chaque année, on présentait des spectacles, mais qui n'étaient pas les nôtres, dont on jouait. Et puis, on s'est dit, allez, on avait envie, c'était quelque chose... voilà, on s'est dit, ça pourrait être sympa de faire notre propre pièce, de notre propre écriture. On n'était pas forcément sûr que le projet se montrait un jour, mais on s'était dit, en tout cas, voilà, c'était l'occasion aussi d'avoir quelques bonnes soirées aussi, de se retrouver. Et puis, mine de rien, on a fini par écrire un texte, et puis qu'on a présenté aux professeurs de Dynamic Act, qui nous ont dit, les gars, il y a quelque chose à faire. Ils nous ont parlé de la date du 9 avril, et puis nous voilà aujourd'hui. Quoi.
Voilà, on a eu du coup cette proposition au mois de novembre. Donc, courant novembre et début décembre, on a fait un casting dans les différentes classes de l'école pour repérer un peu certains comédiens, savoir qui était motivé aussi, parce que pour les élèves, ça leur demande deux fois plus de travail parce qu'ils ont déjà les cours la semaine. Et nous, on pouvait avoir l'école le dimanche. Du coup, ils revenaient pour ce dimanche-là. Ça leur ajoute une pièce dans l'année, donc deux textes à apprendre. Ça reste des amateurs, donc et pas au sens péjoratif, attention. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de boulot. Mais voilà, les gens étaient vraiment, vraiment motivés. Et du coup, ça n'a pas loupé, parce que du début à la fin, ça a été un grand plaisir de jouer avec eux. Depuis le début, ils ont géré leur texte, ils ont proposé plein de choses. C'était vraiment une belle expérience qu'on a commencé à deux, mais qu'on a fini à six. et c'était bien. C'était vraiment agréable.
Une question pour le metteur en scène. Je crois que c'est la première mise en scène que tu fais.
Ouais.
Comment on met en scène la première pièce qu'on écrit avec des collègues amateurs? Là, c'est extrêmement compliqué, non?
Ouais, c'est beaucoup de pression, en fait, déjà à la base, quand on sait qu'on va la mettre en scène. Après, pour moi, c'était pas facile, mais vu que j'ai écrit la pièce avec Benoît, j'avais déjà une idée de ce que ça pouvait être. Après, les comédiens ont fait énormément de propositions, ce qui a aidé aussi. On a beaucoup échangé sur les différents mouvements qu'ils pouvaient apporter, comment ils sentaient telle réplique, sur quel ton, sur tout ça. Donc on a énormément partagé là-dessus. Et puis après, en fait, il suffisait de regrouper un peu toutes ces idées, de garder mon idée de base et puis de faire un petit pot pourri avec tout ça qui j'espère a rendu bien cet après-midi.
Et comment les comédiens professionnels d'Yggdrasil ont réagi par rapport à votre projet? Est-ce qu'ils ont voulu jeter un coup d'œil? Est-ce qu'ils vous ont donné des conseils? Ou est-ce qu'ils se sont dit on vous laisse la liberté totale, on veut rien voir avant la première qui était aujourd'hui?
En fait, c'est nous qui les avons sollicités. Et là-dessus, dès qu'on avait des questions, ils ont tout de suite répondu présent. Ils nous ont donné tous les moyens dont on avait besoin. Et là-dessus, on les remerciera jamais assez parce que c'était voilà, ils nous ont servi sur un plateau et c'était vraiment
tout en nous laissant la liberté aussi de se tromper, de faire des erreurs. Mais c'était très.
Ils nous ont fait confiance.
Agréable. Et dès qu'on avait un petit souci ou quoi, ils étaient là pour répondre à nos questions.
Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette pièce dans le futur?
On a déjà une deuxième date et c'est pas mal, j'ai envie de dire. On reprend le 14 mai et puis après, on ne sait pas bien encore si on voulait avoir un peu aussi les retours des gens, tout ça et tout. Est-ce qu'on essaie de pousser un peu plus ou pas? Sachant que nous tous, on est amateurs, on a quand même des métiers à côté, c'est pas évident non plus. Donc affaire à suivre.
Quand on regarde votre pièce en tant que spectateur, on reste ou on sort de la réalité?
C'est compliqué de répondre à cette
question. C'est délicat de répondre, faut peut-être demander au spectateur. Parce que nous, du coup, on le voit, c'est très difficile de le voir en tant que spectateur. Même si moi, j'ai pu prendre un peu de recul pendant qu'il jouait, mais c'est compliqué parce qu'on a forcément un autre regard. Et les peu de retours que j'ai eus ont été assez bénéfiques, assez positifs. Les gens sont vite rentrés dans l'univers. Après, voilà, je sais pas vraiment.
Ce qui est sûr, en tout cas, moi je peux dire sur scène, on sent en tout cas une attention du public et ça porte. Ça c'est très agréable. Ça a plutôt bien réagi, ça a plutôt ri parce que ça reste une comédie. Et que,
surtout que dans le public, tout le monde ne connaît pas l'envers du décor justement de la scène et des acteurs.
Le texte est très caricatural de toute façon. Après, on n'est pas cherché à être au plus près de la réalité. On a surtout cherché à faire quelque chose qui soit amusant, même si on retrouve des petites choses, des petites choses dans le décès.
Il n'y a pas un côté revanchard en fait dans le fait de se moquer des comédiens?
Non, c'est pas revanchard. On se moque pas tant des comédiens en fait. C'est un peu notre expérience à nous aussi en tant que comédien amateur aussi qu'on a mis en scène. C'est qu'est-ce que dans une troupe va fonctionner, ne va pas fonctionner sur la durée, parce que préparer une pièce c'est très long, il y a des semaines et des mois de répétition, il y a la tension de la première, il peut se passer plein de choses entre les comédiens.
Comme on le disait tout à l'heure, justement, vous êtes avec des comédiens amateurs qui ont une vie derrière, justement, qui travaillent pas mal.
Voilà, c'est ça.
Qui peuvent avoir des familles, et justement là ça peut créer certaines tensions que vous arrivez à gérer, justement, vous en tant que metteur en scène et vous en tant que co-auteur, vous vous sentez concerné par tout ça ou pas? Par le bien-être de vos comédiens, justement, quand ils sont en train de donner en spectacle, alors qu'effectivement, ils sont quand même amateurs et ils ont une famille derrière. Ma question est un petit peu saugrenue, mais
je comprends. Après, c'est notre cas aussi. Moi, j'ai connu un heureux événement à l'automne. Et j'ai eu un enfant, hein. et du coup, c'est vrai qu'on a tous nos vies à côté. Mais à partir du moment où les comédiens ont choisi parce qu'ils ont choisi, on leur a rien imposé de jouer dans cette pièce. On a demandé une participation vraiment intensive, une concentration. Et après, bien sûr, on se voyait essentiellement les dimanches soirs. C'est en week-end, c'est chiant. Donc des fois, ça nous arrivait de décaler d'une heure, d'en appeler que deux ou trois, et les autres, elles les répétaient la semaine d'après. On s'arrangeait suivant aussi les emplois du temps pour pas, bien sûr, empêcher la vie de continuer. Donc pour l'instant, on l'a fait aujourd'hui et c'est déjà bien. On se sent tous soulagés. On a la date du 14 mai qui arrive, mine de rien, assez vite. Donc on va se laisser quand même deux week-ends, là, je pense, tranquille.
Et bien donc, on vous remercie beaucoup. Puis on vous souhaite bonne chance
pour
la suite.
Merci à vous.
Ma voix sur la version et élimine les poches trop en restant sur le ton hardcore. J'y suis cette impulsion, retiens bien la leçon ou bien mange du plan mono. J-O-K-E-R, ne prête pas à confusion. Je rigole quand je tabac comme un clé baratilla. C'est moi le fléau, le bico, le barjo qui veut ta peau. J'suis parano, j'suis schizo, le fantôme des métros. Celui qui rentre dans ta tête pour te retourner le cerveau. Tente pas d'appeler la police ou de taper ton coup de vis. Encore une victime sur la liste du gang terroriste illicite aux lyrics explicites. Nous sommes là pour tailler ceux qui bouffent sur le beat. Le GDL mon possi est dans la place mon ami. Avec la boule nous là, on a un bon alibi. On était en train de rapper quand ta tête a explosé, écrasé. Sous la pression de 10 tonnes de vérité qu'on compte dans nos morceaux. Même pour nous ça fait trop, nous ne pouvons plus assumer tout seul tous ces fardeaux. Toi tu savoures tranquillement dans ton appartement les bienfaits d'une société qui met en place notre enterrement. Regarde-toi vraiment et tu verras sûrement au fond de tes yeux la lueur de la haine qui me rend dément. Joker sur la version, Imperial user sur la version, Teaser Finger sur la version, Tine gros sur la version, Le gang des lâches sur la version, Le rabat-fou sur la version, La boule smala sur la version, Fouer sur la version. La Brugnouls Malar représente dans la place et stoppe les menaces sur la compta. 12h, Jazzer et Joker, y'a de la fumée dans l'air, tout va brûler, c'est chaud. Si tu joues, c'est toi qui perds parce que t'es sur la liste des gangs terroristes. Voici t'as tombé, hasta la vista, babe. C'est fini pour toi, t'es que t'as over et moi. J'ai toutes les cartes en main, c'est moi qu'envoie la donne. La couche, j'y ai grandi, j'y ai joué depuis tout petit, j'y ai niqué d'arwa. Ouais, j'avais 10 piges, j'ai mon bail dans la boue. Je déplore ce passé qui m'a construit, mais tu vois, j'ai pas choisi, j'y étais plongé. C'est ta société qui m'a fait, ouais. Sur la version, sur la version. Imperial user sur la version, Jazzer Finger sur la version, Tine gros sur la version, Monsieur Joker sur la version, Lucrin sur la version, Killer Hagar sur la version, sur la version, sur la version, sur la version. Pané, fâché, dégoûté d'être français quand je vois comment se comporte la majorité. Vous êtes peut-être des moutons, mais vous m'avez pris pour qui? J'aime mon pays, mais pas ceux qui se l'approprient. Des rastecs dans l'âme qui se comportent comme des femmes. Bretagne sur leurs origines, que adeptes pour partie de la flamme. Je vous crache dessus, vous et vos putains de la rue. Votre race supérieure, vos valeurs, votre société qui pue. Nous n'en avons pas voulu, nous on vous pisse au cul. Ils viennent tous du Maghreb, mais on a grandi dans la même rue. J'ai été mieux accueilli chez ces gens qui puent et font du bruit. J'ai des salopes intégrées qui se croient ici. Sur la version, Tine gros sur la version, Imperial user sur la version, Monsieur Joker sur la version, De l'un sur la version, Cyrocrate sur la version, La boule smala sur la version, Tine gros sur la version. Une victime du système, c'est moi-même, et mes hap et même par-dessus tous nos parents. Mais le plus important à savoir dans l'histoire est que ceux qui veulent nous voir en dehors du territoire ne sont même pas originaires de ces terres dont ils sont si fiers. Ils sont arrivés hier, aujourd'hui, en leurs à leur grand-mère. Nous leur ont reconstruit ce pays de fond en comble. Quand ils sont arrivés, il n'y avait que des décombres. Aujourd'hui, quand il acquit même pas le respect, on te crache à la gueule sous prétexte que t'es bronzé. On se plaint de notre nombre et pareil qu'on vous fait de l'ombre. Avec ou sans nous, votre avenir nous paraît sombre et c'est pas fini. Putain, dans ce pays, rien que ça fouette le gauche. Mais je garde les mains dans tes poches et je veux ta cocoche avant de filoche. Je lâcherai jamais l'affaire. Moi et mon sad joker, on rassemble les frères. Jack et petit négro, toujours synchro sur le tempo. Sur la version, sur la version. Tine gros sur la version, Monsieur Joker sur la version, Imperial Teaser sur la version, Teaser Finger sur la version, 60 Jones sur la version, Monsieur Joker sur la version, 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 sur
on va laisser le festival Yggdrasil et le printemps des comédiens derrière nous pour aller rencontrer Sami Khadir, un écrivain lyonnais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre, qui a sorti son nouvel ouvrage, Le Chant des Narcos, et c'est la suite de Sourcils sans frontières, et c'est Mohamed et moi-même qui nous occupons de l'interview.
Dans le premier tome, le personnage, c'est un personnage qui est complètement perdu. Quoi.
Voilà, il est perdu, en fait, il subit son environnement, ça veut dire qu'il suit ses potes, il dit... Et en fait, c'est juste par chance, entre guillemets, que parce qu'il a un insomniaque aussi, donc il se lève très tard. En fait, tu peux le considérer comme, surtout aujourd'hui, là, que, avec la récupération des médias par rapport à ce qui se passe dans le monde, etc. C'est un petit peu le cauchemar français, tu vois. Il est issu de banlieue, d'origine maghrébine, ultra consommateur, comme on avait dit. Etc, etc, délinquant, violent, impulsif, donc en gros il a vraiment toutes les caractéristiques qui poussent à le détester, tu vois, et donc voilà, un beau jour il se trouve que la police vient chercher ses potes et lui il a quand même le temps de fuir et il gamberge quand même un petit peu avant, tu vois, quand il est cette fameuse soirée où il est posé dans sa voiture, il fume des joints, il gamberge. Il n'aime pas la vie qu'il mène parce qu'elle est faite d'engrenages malsains. Et donc, il y a un coup de pouce du destin. En fait, il ne fait jamais les choses par lui-même. C'est vraiment, il est forcé à agir. Il est vraiment forcé à prendre le taureau par les cornes quand il se retrouve dans une impasse, en fait. Et donc, c'est grâce à ça, avec un peu de chance aussi, qu'il se rend à l'aéroport. Grâce à un pote qui le conduit et il se retrouve au Mexique et au Mexique il va réapprendre à vivre et surtout en fait on va lui renvoyer l'image du français parce que comme il vient de France il s'exprime en français etc. Même s'il est bronzé etc. qu'il n'est pas blond aux yeux bleus, on lui renvoie cette image de français et ça va amorcer quelque chose dans son comportement. Déjà au niveau de l'appartenance, il va un peu plus découvrir qui il est parce qu'en fait, il était un peu dans le subissait, comme je disais, son environnement. Donc, il était vraiment dans la recherche de soi, on peut dire. Et c'est à cause de ça aussi qu'il faisait qu'il est tombé un peu dans la délinquance. Mais je parle, tu vois, beaucoup du langage. Et en fait, le langage, dans le sens où, en fait, quand tu es souvent issu d'un quartier ou en banlieue, le langage, il est c'est quelque chose d'exclusif. Je m'explique, en fait, c'est par exemple, tu peux jurer sur le Coran, sur la Mecque, que tu veux, quand t'es en groupe avec tes potes, et il y en a certains, ils vont pas arriver à lâcher ce langage-là devant n'importe qui. Mmh. Alors que d'autres personnes vont arriver à s'intégrer, enfin, c'est même une preuve d'intelligence, tu vois, arriver à adapter son langage. Et j'ai identifié 4 manières de parler dans le langage français, et je m'amusais à remarquer qu'en fait, les délinquants de la rue, pas ceux en col blanc, mais les délinquants de la rue, qui eux, ils apprennent le langage soutenu, mais que à travers les réquisitions des procureurs et des décisions de justice, tu vois. Voilà. Comme le mot dégradation de biens publics, association de malfaiteurs. Le mot malfaiteur, tu l'utilises pas dans la rue. Voilà, tu vois, quand t'es dans le langage.
Ouais. Et ton héros, Balkacem, il rentre dans quelle classe ?
Alors, au début, justement, il est super exclusif. Ça veut dire qu'il est, il parle le langage des quartiers. Il est, il est super, super consommateur à outrance, ultra-capitaliste, etc. Donc, en fait, en France, il est complètement bloqué. C'est à partir du moment où il va se retrouver au Mexique, il va lui arriver des péripéties. Donc, il va, en fait... taper dans l'œil d'un recruteur pour une université qui va le recruter, il va se mettre à étudier et faire partie d'un projet. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où il va se rendre compte que lui, il est un peu enfermé dans le moi je fais une référence avec le niveau de langage, donc il est un peu enfermé dans ce niveau de langage et qu'en fait après il va pouvoir passer des niveaux. Et ça le rend même triste parce qu'il sait qu'il va devoir abandonner ses amis en bas, entre guillemets, tu vois.
Justement, Balkacem, donc il est autodestructeur, tu l'as...
C'est ça au début,
tout à l'heure. Ouais. Alors ce caractère-là, et même tout ce qui est autour de Balkacem, c'est de l'imagination, ça sort de ta tête, ou c'est aussi quelque chose, tu t'inspires d'une réalité qu'on peut retrouver...
Tout à fait, bah ouais, tu peux facilement retrouver cette identité destructrice dans les quartiers. Je me rappelle qu'une fois, il y avait... dans une ville qui s'appelle Sartrouville, ils avaient, j'ai un pote qui m'a raconté qu'ils avaient le seul lien culturel qu'ils avaient avec l'extérieur, c'est très cité là-bas, le seul lien culturel qu'ils avaient avec l'extérieur, c'était un théâtre en fait. Et un jour, ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé même le théâtre. Il y avait une dame qui disait, mais qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils brûlent ça? Et en fait, il y a un autre exemple qui est plus probant. C'est, par exemple, Luc Besson, qui avait fait un... Je crois que c'était où, lui? C'était dans le 93. Lui, il avait fait une boîte de prod. Mais, Luc Besson, il avait fait une boîte de prod justement pour encourager les gens à s'en sortir, etc. Donc ça avait amené du boulot, etc. Mais ceux qui n'avaient pas été pris dans le projet, en fait, ils ont brûlé tout le studio. Donc au final, Luc Besson, il s'est barré, etc. Donc en fait, c'est un peu cette image-là que je voulais ressortir. C'est que dans une personnalité, effectivement, comme tu dis, dans un symbole d'un personnage, c'est que le côté un peu destructeur, un peu voilà, l'autre il est en train de briller, moi je brille pas, mais pourtant j'ai les mêmes capacités, donc autant tout brûler, autant tout casser.
Ah, voilà.
Et en plus, Belkacem, ouais. Au début, il a un sentiment qui le pousse à partir aussi, il n'a pas l'impression de vivre sa vie.
C'est ça, ouais, exactement. Alors, ça, c'est là pour le coup, c'est mon expérience personnelle parce que moi je suis. Je suis parti assez tôt en fait. Déjà, moi je suis né à Dijon, je suis arrivé à Lyon à l'âge de 9 ans, donc j'ai beaucoup déménagé. Je suis arrivé à la place du Pont, ensuite j'ai déménagé à Croix-Rousse, etc. J'ai connu pas mal de déménagements dans ma jeunesse qui m'ont pas forcément déstabilisé, mais un peu comme Walt Disney et Tupac Shakur aussi, ils ont beaucoup déménagé dans leur enfance. Ça m'a apporté une certaine vision, et au bout d'un moment, tu sens que tu t'étouffes un peu, et moi, grâce à l'école, en fait, j'ai pu partir en Espagne, dans un premier temps, et ensuite au Mexique. Voilà. Alors pour la petite histoire, c'est qu'aujourd'hui, je suis bilingue et je traduis des livres en espagnol, mais au bac, j'ai eu 3 sur 20. En espagnol, voilà. Donc comme quoi, en fait, il faut jamais partir d'une... Et je suis prof d'espagnol aussi. J'interviens au Chartreux, je sais pas si tu connais, en prépa. Après, c'est pas une fin en soi de parler couramment une langue, mais je veux dire, rien que dans ce symbole-là, c'est... Sans le voyage, j'aurais été incapable de faire... de réaliser ceci, voilà. Donc moi, personnellement, au niveau de la vie de tous les jours, de la vie mondaine, etc., c'est ce qui m'a sauvé, le voyage.
C'est voilà. Le voyage qui t'a permis de te délivrer de cet environnement qui
voilà, qui voilà, voilà. Et même, voilà, et même si tu n'habites pas en cité ou que tu n'es pas trafiquant, etc., tu retrouves quand même cette symbolique-là. Ça veut dire que si tu es, par exemple, on va faire un comparatif avec une... tu es en couple avec quelqu'un, tu vois, il y a des fois les relations, ça commence bien, après ça devient du poison, donc il faut se séparer un moment pour se retrouver, etc. Donc en fait, c'est dans cette idée-là, c'est vraiment de lâcher son environnement malsain, etc. Et l'environnement malsain, il peut être aussi dans ta tête, en fait, parce que ta tête, c'est la première prison, c'est le premier endroit où tu broies du noir, etc.
L'action de base dans Sorciers sans frontières commence dans les Minguettes.
Commence aux Minguettes, c'est ça.
Pourquoi ce quartier-là?
Alors pourquoi ce quartier? Comme je disais à Mohamed, c'est parce qu'il y a une double... C'est que déjà, je voulais un quartier qui parle à tout le monde. Et en fait, les Minguettes et Vaux-en-Velin, j'aurais pu prendre Vaux-en-Velin aussi. Hein. Les Minguettes et Vaux-en-Velin, c'est vraiment ce qui, je pense, qui parle au niveau de l'urbanisme, etc. C'est ce qui parle vraiment partout en France. Même les gens qui sont à Paris... on peut dire qu'ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes et tout, ils savent, si tu leur dis les Minguettes ou Vaux-en-Velin, ils vont savoir de quoi il s'agit. Donc c'était ça, il y avait aussi le symbole de la marche des beurs et comme on avait dit dans le premier chapitre, du quartier de la démocratie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le champ des narcos, les Minguettes interviennent très très peu, ça arrive juste à la fin en fait, parce que les différentes actions, c'est à Corba, prison à Corba. Ensuite, c'est au Mexique. Enfin non, c'est Hôtel de Ville pour le braquage à Corba. Au Mexique, dans la ville d'Aguascaliente à Tijuana, dans le nord du Mexique. Ensuite, retour à Corba. Ensuite, non, avant retour à Corba, il y a retour au Minguettes justement. Où il y a ce côté où, pour revenir aussi à ta question d'avant, ça me fait rebondir, c'est que Belkacem il quitte chez lui. où en fait il y a le contexte familial aussi, il s'entend mal avec son père, il y a du bruit chez lui, il trouve que c'est bruyant, la seule personne qu'il aime bien c'est sa mère et sa petite sœur, voilà. Et en fait quand il va revenir chez lui, il va revenir chez lui en fait, la fin de sa cavale, quand il va revenir du Mexique en fait, ça va être le Ramadan etc, donc sa famille ils sont partis au pays en Tunisie, et en fait il va se retrouver seul chez lui, et ça va être quelque part un refuge où il va pouvoir entre guillemets se retrouver avec lui-même etc, avant de se faire embarquer, avant que la police vienne le chercher, voilà. Mais il ne fuit, à ce moment-là il fuit plus en fait, à ce moment-là c'est là où il retrouve où il se retrouve en paix avec lui-même. Donc en fait ça part de l'environnement familial effectivement aux Maguettes, et ça revient dans une maison vide où là il se retrouve, pourquoi la maison est vide, pour qu'il se retrouve en paix avec lui-même etc.
Tout à l'heure t'as parlé de Walt Disney.
Ouais.
C'est un exemple pour toi?
Le personnage, ouais, je trouve qu'il est quand même... c'est mon avis personnel, mais il correspond aussi à... C'est un battant, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup déménagé, qui a eu... là où je l'admire quelque part, c'est qu'en fait, il a... Pour ceux qui... Enfin, les gens ne connaissent pas forcément son histoire, mais il a mis toutes ses économies et toutes ses forces dans Blanche-Neige, en fait, le long métrage, et qu'a cartonné, c'est ça qui lui a donné le succès. Et en fait, c'est dans cet esprit. Là, c'est les États-Unis, donc c'est une autre manière de penser, mais c'est vrai que justement, dans les quartiers, tu retrouves un peu cette idée-là de consommation, etc. Et par contre, là où on a pris le mauvais côté, c'est qu'on n'ose pas forcément agir. Tu vois, on n'ose pas, alors qu'on a les capacités, on n'ose pas forcément aller de l'avant et tenter des choses, etc. Donc c'est pour ça que ouais, Walt Disney, j'admire beaucoup l'entrepreneur qu'il est. Après, les idées politiques, etc., je sais pas.
En revenant sur la culture urbaine.
Ouais.
Y a beaucoup de références. Donc tu vois vers quoi je veux venir. Référence culturelle urbaine,
ouais.
La musique joue un très grand rôle dans les deux livres,
ouais.
Alors ça va dans le rap, le rail, comment tu as choisi ta playlist?
Alors en fait là t'as une première playlist, une première bande son. Après faut savoir que sur la deuxième, on peut peut-être le citer, les trucs. Donc t'as, ça commence avec Hold Up de Intouchable, il y a Meurtre Légal, donc là, il y a beaucoup la Bougnoules Mala en fait, qui était un groupe qui faisait ça par... qui s'appelait la Bougnoules Mala, ouais. Et où je cite en plus leurs meilleurs textes, parce qu'ils étaient accusés justement d'inciter à la haine, etc. Et je tire vraiment des textes qui font réfléchir d'eux, donc ça m'intéressait. Après, bon, c'est Bougnoules Mala dans le livre, quand il est en prison, en fait, que le voisin de cellule écoute ça, etc. Donc après, ouais, t'as pas mal de références. T'as aussi le Ain't Not Motin High Hadoot, pardon pour mon anglais, qui est la chanson du film Les Titans, qui est le plus beau des combats, en référence à ce film-là. T'as It Ain't Up, t'as De La Funk, ouais,
t'as Tupac. Down,
Tupac, Sadil. Don Omar, t'as du reggaeton bien sûr, t'as aussi du
Section d'Assaut,
ouais. T'as aussi du ce qu'on appelle de la musique mexicaine, c'est-à-dire bon, t'as l'hymne national aussi, ça, on pourrait y revenir avant les matchs de foot, etc. Et t'as t'as un jeu de mots sur la corrida de Francis Cabrel.
C'est la littérature urbaine. Est-ce qu'elle est assez mise en avant?
Ouais, ça c'est une très bonne question. Moi je trouve que non, personnellement, parce que par exemple, t'as aux États-Unis une maison d'édition qui s'appelle Cash Money, mais en France, si tu veux, t'as pas autant dans la musique. T'as bien des labels de rap, tu parlais du Hachibi, ils montent tous leurs labels. Autant je vois pas pourquoi dans la littérature, il n'y aurait pas justement des maisons d'édition entièrement urbaines. Qu'après, t'en as qui s'occupent du thriller, comme celle de Rachid Santaki, qui est Ombre Noire, c'est une déclinaison de Flammarion, là, sur chez qui va sortir son prochain livre, là, qui sort au mois d'avril, qui s'appelle La Légende du 9-3. Sinon, après, attention, quand je dis une maison d'édition urbaine, ça veut pas dire prendre prendre tous les écrivains qui ont un nom arabe ou noir et les mettre dans le même paquet, parce que t'as des choses qui sont vraiment différentes, tu vois, quoi. Par exemple, je pense à Sabri Loata, là, qui écrit Les Sauvages, c'est pas forcément de l'urbain, tu vois.
Ou Karine Madani, ou
voilà, exactement. Après, je pense que ça manque, effectivement, et qu'il faudrait plus la mettre en avant. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la lecture, c'est important, comme on disait, pour pas être exclusif, pour pas parler de la même manière que quand on va traîner avec ses potes, que quand on va chercher un emploi. Et aussi, je me suis rendu compte que les femmes, en fait, par exemple, elles vont plus lire, elles peuvent lire facilement pour se divertir, alors que les hommes, enfin les garçons, c'est plus rare. Par exemple, la plupart de mes amis, eux, ils vont pas avoir le réflexe de lire un livre pour se divertir. Ils vont aller au ciné, ils vont regarder une série, etc. Le seul moment où ils vont lire des livres, c'est pour apprendre la science, la religion, ou alors pour apprendre un truc par rapport à leur boulot. Ça va être quelque chose vraiment d'instructif, mais ça va pas être dans le divertissement. Et je pense que cette... il y a ce marché-là à prendre et où il faut le valoriser, c'est vraiment le marché de du divertissement urbain, comme fait au final le rap, etc. Et la littérature, c'est quand même pas plus noble, mais c'est une autre manière d'appréhender les choses qui peut être intéressante.
Donc pas assez de propositions pour ce qui est de la littérature urbaine du côté des éditeurs.
Ouais, je trouve qu'il n'y a pas assez d'offres.
Pas assez de lecteurs ou pas assez de demandes.
Ah ouais, ça c'est voilà. Tout à fait.
Il y a un marché. Y a un marché
et c'est exactement ça. Mais après, c'est l'un va entraîner l'autre. Tu vois, si on fait assez de promos, si on amène vraiment les gens à la littérature, l'exemple le plus probant, c'est Rachid Santaki qui lui, il a écrit un livre qui s'appelait Déchiffrer des litres et il avait fait chanter Mac Taylor, donc qui a écrit un morceau de rap. Qui racontait son livre en fait. Et donc en fait c'était le relais entre la lecture et les jeunes. Donc c'est à travers lui aussi il fait tout ce qui s'appelle la dictée des cités. C'est aussi super intéressant. Je trouve que c'est une approche très intéressante. Et en plus lui c'est encore mieux parce qu'il... enfin encore mieux je sais pas, mais il prend tu sais des textes de Victor Hugo, donc des textes super connus parce qu'il sait que ça peut aussi les aider à l'école.
Petite précision, c'est Rachid Santaki qui fait la préface du Chant des Narcos et vous pourrez trouver cet ouvrage dans à peu près toutes les bonnes librairies et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à le demander à votre libraire. Restez attentif au site du Lyon Bondy Blog car un article va bientôt sortir justement sur cette interview avec un autre angle de lecture et vous pourrez en apprendre tout autant.